Un air d'actu avec Serge Carrel.
Ils viennent de publier Parole d'homme, un livre de témoignages rédigé par des hommes et préfacé par une femme. Naïda et Jonathan Deret sont les invités d'un air d'actu aujourd'hui. Madame, monsieur, bienvenue. Naïda et Jonathan Deret, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu ce matin jusqu'à nous. Alors, vous venez de publier Parole d'hommes, un livre de témoignages d'hommes qui sont passés par des difficultés importantes. Naïda Deret, vous préfacez ce livre. Alors, pourquoi cette implication dans ce livre, magnifiquement illustré d'ailleurs ?
Alors, c'est vrai que c'est les seules paroles féminines du livre. J'en suis un petit peu responsable de ce livre, c'est noté d'ailleurs, je crois, dans la préface. C'est suite à ce qui m'est arrivé, ce qui nous est arrivé, à notre accident, et à toute la réflexion qui a suivi, tout ce qui s'en est suivi, que mon mari a eu ce désir, que le projet a germé en lui d'écrire un livre avec l'aide de plein d'autres hommes avec plein de témoignages.
Donc il y a celui de votre mari, Jonathan, et puis il y a 9 autres hommes qui s'expriment.
Oui, voilà pourquoi parole d'homme.
Mais quand on dit parole d'homme, finalement, ça a une orientation un petit peu particulière. Est-ce qu'on peut dire que finalement ces hommes qui parlent de leurs témoignages seraient peut-être des gens qui, dans leur famille, via leur épouse, via leurs enfants, sont passés par des difficultés importantes ?
Oui, bien sûr. C'est un peu l'idée du livre. Suite à ce qu'on a vécu, mon mari, c'est sûr que on réalise en discutant à droite, à gauche, qu'il y a tellement de gens qui vivent dans l'épreuve, qui ont vécu ou qui vivent encore une épreuve. Et l'idée, c'est vite imposée à son esprit de pouvoir parler de ce qu'on a vécu, ce qu'on vit encore, et de pouvoir joindre à cela plein d'autres témoignages et toucher un maximum de gens, finalement.
Alors, Jonathan Deret, au travers de ce livre de témoignages, vous avez voulu donner la parole à d'autres hommes. Est-ce qu'on pourrait qualifier ces hommes d'un terme qu'on entend beaucoup aujourd'hui, c'est celui de proche aidant ?
Alors oui, c'était le but. Le but, c'était de pouvoir donner la parole aux hommes qui ont vécu en famille ou avec leur conjoint quelque chose de difficile. On parle de deuil, on parle de maladie, d'accident, de handicap, de séparation.
On parle de dépression aussi.
Aussi, tout à fait. Et puis effectivement, ce sont des hommes qui ont vécu l'expérience. Alors certains ont vécu une expérience particulière, mais c'est surtout avec le regard de proche aidant que j'ai voulu compiler ces 10 témoignages. Alors bon, je dirais que chaque vie a un témoignage, et puis chaque homme aurait pu figurer aussi, je pense, dans un tel livre. Mais je l'ai choisi.
Il y a un angle, en langage journalistique, on dit qu'il y a une orientation
tout
particulière. C'est finalement la situation d'hommes qui, au travers de ce qui leur arrive, auraient pu quelque part renoncer à une responsabilité, renoncer à la responsabilité de rester conjoint de quelqu'un qui passe par un temps difficile, ou peut-être père dans un contexte particulièrement délicat.
Alors, il y a toute une réflexion aussi sur la responsabilité. Aujourd'hui, c'est quoi la responsabilité ? Bon, puis à responsabilité, on peut associer le mot engagement. Je pense qu'aujourd'hui, ces mots, enfin, c'est mon avis, ils sont un peu tabous quand même. On n'ose pas trop en parler parce qu'on n'arrive pas à mettre quelque chose de concret derrière. Qu'est-ce que l'engagement ? Qu'est-ce que la responsabilité ? Et puis, quand est-ce qu'on doit s'engager ? Quand est-ce qu'on est responsable ? Ce sont tous des mots qui sont assez complexes, finalement.
Vous êtes, du point de vue professionnel, vous êtes enseignant spécialisé et vous rencontrez passablement d'enfants et d'ados dans la vie desquels les pères sont absents. Est-ce que, finalement, derrière ce livre, il y a aussi une invitation à encourager les pères à rester présents, même dans des situations parfois douloureuses, voire catastrophiques ?
Alors, j'affinerai un peu absent, parce que on peut être absent mais présent, c'est-à-dire qu'on peut être séparé, on peut divorcer mais présent quand même dans la relation avec l'enfant. Moi, je pense plutôt, et je le constate dans mon travail, et puis c'est un constat aussi que d'autres professionnels le font, hein, les assistants sociaux, les psychologues, les pédopsychiatres. Aujourd'hui, on remarque que lorsque le père est fuyant, qui fuit la relation, qui ne la désire plus, alors ça génère chez l'enfant, chez l'adolescent, un trouble du comportement, et même, je dirais même, un trouble du développement de l'adolescent. Et on est confronté à... Enfin, je suis parfois confronté à des adolescents qui ne respectent plus de règles, et puis... la réflexion aide. Comment aller les chercher aussi, ces jeunes-là? Alors, c'était aussi par ce livre de montrer que l'engagement peut se traduire par des actes. Et puis, j'en parlerai peut-être un peu après, mais quand on n'arrive plus à s'engager, sur qui est-ce qu'on peut compter?
Naïda Déré, vous êtes passée par un terrible accident de voiture, hein, c'était en décembre 2018. Est-ce qu'aujourd'hui encore, vous sentez l'importance de l'engagement de votre mari à vos côtés?
Oui, énormément. Bon, alors, c'est vrai qu'on est un couple assez, assez fusionnel, on fait beaucoup de choses ensemble. De plus en plus, je me détache dans le bon sens du terme. Je veux dire, je commence à faire beaucoup de nouveau, de faire beaucoup de choses par moi-même. Il y a tout un temps où il y avait une dépendance quand je suis rentrée de l'hôpital, bien
Donc
plus tard.
Donc, vous avez eu un accident de voiture, hein, oui. Et vous avez, si on ose risquer un peu la formule, été salement amoché.
Oui, c'est assez miraculeux que je sois là à vous parler, en fait. Ça ne devrait pas vraiment être le cas, d'après l'avis des professionnels. Il y a eu 2 semaines de coma. Quand les professionnels sont arrivés sur place, ils ont décrit coma, enfin, ils ont coché, vous savez, ils doivent évaluer la profondeur du coma. Et là, ils ont mis coma profond ou mort cérébrale. Voilà à combien ils ont évalué mon état.
Donc vous êtes resté plusieurs jours, voire 2 semaines, je crois.
Environ 2 semaines, oui.
Dans le coma. Et puis après, vous avez eu toute une rééducation à envisager parce que votre cerveau était endommagé.
Oui. Alors bien sûr que c'était une hémorragie cérébrale multifocale. Donc personne ne savait qu'est-ce qui avait été touché, qu'est-ce qui allait rester. Donc... À mesure que les choses revenaient, on prenait tout ce qui était bon à prendre.
C'était bonus.
Mais on savait pas où ça allait en fait. Enfin, moi, je parle en jeu, mais j'étais pas tellement consciente. Vous savez, quand vous réveillez d'un coma, c'est pas comme dans les films où vous ouvrez les yeux puis vous dites ah, qu'est-ce qui s'est passé? Non, là, il y a une prise de conscience de plusieurs semaines même de réaliser qu'est-ce qui se passe. Enfin, ça ne se passe pas en une minute. C'est très, très long. Donc, je dirais que c'est plutôt mon mari qui notait les progrès, puis qui, lui, chaque jour qu'il y avait un nouveau truc, il disait « Waouh, il le notait, c'était extraordinaire. »
Il se réjouissait de vous voir évoluer de manière positive. Qu'aujourd'hui, vous diriez que vous avez complètement retrouvé vos moyens d'avant cet accident?
Non, pas complètement. Non, je ne suis pas encore... J'ai encore du vertige, toujours. Je pense que mon cerveau s'habitue, ça doit être ça. La fatigue, c'est pas encore ça. Non, je sais pas comme avant. Mais je dirais que par rapport au tout début, ça n'a rien à voir.
C'est magnifique. En tout cas, on vous voit comme ça et on vous entend. Et vous êtes tout à fait à même de répondre à une interview et de participer à une émission de radio en direct, soulignons-le.
Oui. Puis la tête est revenue. Alors ça, c'est le langage est revenu immédiatement. Ça c'est juste extraordinaire.
Si j'ose me permettre un petit trait d'humour, un médecin nous avait dit, bon, elle était déjà à 120% avant, donc si elle a perdu 20%, elle est comme nous, quoi.
Normal, à 100%. Dans tout ce contexte et dans toute cette histoire, hein, difficile et tragique que vous avez vécue avec vos enfants, très, très affectés, Jonathan Deray, vous vous êtes révélé proche aidant, un véritable soutien pour votre épouse. Ça a été... facile de vivre cela, ou bien c'est émaillé de toute une série de découragements, de ras-le-bol, et parfois de crises, j'imagine, peut-être profondes?
Alors, on peut imaginer ceci avec une métaphore ou une comparaison. Je dirais que c'est comme lorsqu'on gravit un sommet, et bien il y a des montagnes. Voilà, on pense arriver au sommet, et non. Il y a encore une vallée entre deux, et puis encore une vallée qui suit. Et pour finir, enfin, quand on arrive au sommet, on croit y arriver, et bien il y a encore quelque chose qui se présente. Il peut y avoir de la neige, il peut y avoir un pierrier, enfin voilà. Non, effectivement, il y a des découragements, les jours ne se ressemblent pas, et puis... en fait... Je pense que je fais des erreurs aussi, et j'en fais toujours, hein. je ne suis qu'un homme.
Oui, vous m'avez lâché au téléphone que vous aviez, alors je ne sais pas si j'ose le dire, mais vous aviez cassé un iPad d'agacement face à vos enfants, et ça vous a rempli de culpabilité.
Mais vous savez, quand on est dans le jus, en fait, on réagit avec, on réagit plutôt qu'on agit, et on a, parfois, effectivement, on fait des erreurs. Alors ici, ben les enfants n'obéissaient pas par rapport à la petite anecdote de l'iPad. Et puis, comme j'étais dans le jus, donc je savais pas vraiment... oui, je savais ce que je faisais, mais les enfants... Enfin, et on en rigole aujourd'hui en famille, mais
bon,
c'est vrai que...
Il faut juste savoir que c'était une question de vie ou de mort. On savait pas si j'allais vivre ou pas. Donc, enfin, juste replacer l'importance de...
Et puis, je l'aurais dit plusieurs fois, mais maintenant, arrêtez de jouer avec cet iPad. Et puis, j'en avais plein la tête. Et puis, au bout de 3-4 fois, ben, je l'ai pris. Puis, je l'ai cogné contre mon genou. Puis, je lui ai dit, maintenant, il fonctionnera plus, là, l'iPad. Et puis, c'est fini. Alors, voilà, je pense qu'on fait des erreurs. Par contre, je pense que là où j'ai fait attention, c'est toujours d'ouvrir un espace de parole, d'écoute auprès de mes enfants, de faire attention qu'ils puissent avoir un lien aussi avec qui ils puissent discuter. Et puis, je me suis engagé auprès d'eux. Enfin, voilà, j'ai tenu une promesse que j'avais faite à mon épouse lors du mariage. Et puis, cette promesse-là, ben, elle s'est concrétisée par des actes.
Vous intitulez votre témoignage, hein, dans le cadre de ce livre « Paroles d'homme », « La confiance est le chemin du possible ». Alors, pourquoi ce mot « confiance » et cette formule « chemin du possible » ?
Quand on ne voit pas le sommet, quand on est dans un brouillard, et quand on est dans un pierrier, et qu'on doit marcher finalement à pieds nus, eh bien, il n'y a que la corde de Jésus-Christ qui peut nous mener au sommet. Et je vous assure que c'est la seule chose qui m'a tenu, avec mes enfants. Parce que sinon, il n'y a plus rien d'autre. Tout s'effondre. Et c'est le cas, je crois, pour tous ces hommes qui ont écrit aussi.
Oui, Naïda Dere, vous avez mis une petite parole, une petite formule, hein, en exergue de ce livre « Paroles d'homme » à tous ceux qui sont en marche sur un chemin et puis c'est mis « impossible » et le « im » de « un » est biffé. Alors, pourquoi cette formule-là ? Est-ce que c'est vous qui l'avez trouvée ?
C'est mon mari qui l'a trouvé.
D'accord.
Tu veux dire quelque
chose ? Alors, je veux répondre.
Ouais, vas-y.
Je réponds. Non, mais alors voilà, je reprends la confiance et le chemin du possible. Pour moi, c'était la confiance. J'avais cette corde dont je parlais avant, sur laquelle je m'agrippais, c'était cette confiance en un Dieu extraordinaire. Et le chemin du possible, parce que ce n'est pour ma part, hein, je parle en jeu, hein, ce n'était qu'à travers ce chemin...
Que vous avez pu véritablement faire face à l'accident de votre épouse.
Tout à fait, ouais, tout à fait.
Et puis alors, ce qui est intéressant, c'est que pour les 9 autres paroles d'hommes, hein, que renferme votre livre, il y a la formule « chemin du possible » qui est reprise, avec avant la foi, la prière, la persévérance, l'amour... Et le chemin du possible. Alors, est-ce que finalement, ça donne un peu, par rapport à chacun de ces témoignages, finalement, l'apport spécifique de ces trajectoires de vie, parfois très difficiles ?
Alors, les mots ont été choisis en fonction du contenu. Et puis ces titres, on les a donnés, on les a écrits avec l'aide d'une relectrice indispensable, ma maman en l'occurrence, qui a apporté aussi beaucoup, hein, tout comme ta maman lors de l'accident. Et puis on les a choisis, on a choisi ces mots en fonction du témoignage. Et puis effectivement, c'est ce qui en ressort. Et puis ce qui est incroyable, c'est que je pense que ça fait partie du caractère de Dieu. Quand on parle d'amour, quand on parle de confiance, de foi, d'espérance.
Oui, ce sont des valeurs bibliques ou des valeurs chrétiennes fondamentales.
Et sur le chemin du possible, pourquoi le chemin? On est tous sur un chemin. Notre vie pourrait se résumer en un chemin, parfois caillouteux, parfois herbeux, parfois pentu ou pas. Parfois c'est calme, parfois on est sur le bord de la plage et on doit y marcher. Finalement, on ne peut qu'aller de l'avant. Alors, certaines fois, on s'arrête parce qu'on ne peut plus. Et puis, c'est là où, pour moi, ça a été salvateur, c'est que Jésus est venu me rejoindre.
Ça, on va en parler tout à l'heure, juste pour reprendre un peu cette formule. Est-ce que finalement, vous souhaitez, au travers de cette formule, le chemin du possible, vous souhaitez dire que le pire n'est pas toujours à l'horizon, n'est pas toujours là de manière nécessaire?
Alors, je changerai de focale, peut-être, parce que oui, on peut regarder à l'horizon, on peut regarder aux objectifs, mais je pense que dans la vie, on marche. On marche et on regarde nos pieds. Je ne suis pas sûr qu'on puisse regarder aujourd'hui à 10 km à l'horizon. Mais on marche et puis on est sur ce chemin-là et on a besoin de quelqu'un.
Parce que ce qui m'a frappé en parcourant quelques-uns de ces témoignages, il y a celui de François, il y a celui aussi de Thomas, c'est des couples, hein, parce que c'est souvent un monsieur en lien avec une épouse qui a des difficultés, d'un côté la dépression, de l'autre vraiment des problèmes de santé énormes, sans possibilité d'avoir des enfants. On pourrait s'imaginer que ces messieurs finalement disent ben, « je renonce, j'abandonne et je refais ma vie avec quelqu'un d'autre ».
C'est une possibilité. Après, ça dépend de chaque personne, c'est un choix. Et comme je vous ai dit, l'engagement est d'abord un choix. Et c'est un choix qu'on place devant Dieu. Et je reviens à ce qui est gravé dans mon alliance. Je peux la sortir, moi j'ai un peu de peine ici. C'est la corde à trois brins ne se rompt pas facilement. Et je pense que c'est une très belle image.
Quand on parle de corde à trois brins, c'est pour illustrer la réalité du mariage.
Exactement.
Il s'agit de vous, de votre épouse, et puis du troisième brin.
Alors de Dieu, vu qu'on l'a fait devant témoin et devant lui aussi. Et quand les deux brins sont très fragilisés, alors on peut compter sur le troisième qui ne seront pas.
Et c'est ce que vous avez expérimenté au travers de ces dernières années à la suite de cet accident intervenu en décembre 2018. Alors voilà. On s'écoute un peu de musique et on vous retrouve après.
Volontiers. Through the depths of the valley where the sun can't reach. Yeah, I've been high, I've been low, I've been looking for the river that can fill my soul. Been walking to a city I cannot see. Yeah, fill my cup, Lord.
Child. this valley was a golden stream. Fill my cup, Lord.
Vous écoutez un air d'actu sur Radio Air. Nous recevons aujourd'hui Naïda et Jonathan Deret qui viennent de publier Parole d'homme, un recueil de 10 témoignages d'hommes qui sont passés ou qui passent par des épreuves d'envergure. Alors dans chacun de ces témoignages, la foi et la personne du Christ jouent un rôle important. Naïda Deret, quel rôle diriez-vous que le Christ a joué dans votre vie alors que vous étiez dans le coma et dans cette dynamique après de réhabilitation, de lutte pour retrouver la plénitude de vos moyens?
Alors, je vais vous parler d'après le coma, parce que le coma lui-même, il y en a qui ont des souvenirs. Moi, je n'en ai pas vraiment de souvenirs. Après, c'était une telle détresse, j'avais pas envie de vivre comme j'étais parce que j'étais dans un état, je parle pas d'un état physique, enfin mécanique à proprement parler, mais dans un vertige. Je sortais d'une essoreuse, mais 24 heures sur 24, j'aurais préféré être en chaise roulante et voir clair, je sais pas comment dire ça. Et
donc
y a
c'est des sortes
donné,
de maux de tête qui sont là en
non,
permanence.
Non, c'est comme si vous sortez d'un carrousel.
Ah ok, et puis vous avez...
Tourne, et c'est tout le temps comme ça, mais 24
Vous avez une perte d'équilibre qui est là de manière constante.
Oui, oui, oui. Puis la tête qui tourne, quoi. Ivre, complètement ivre. Alors, j'ai touché le fond, je pense. Plusieurs mois après, j'avais tellement pas envie de vivre comme ça. Et puis, à un moment donné, une année après, où j'ai, c'était à Nouvel An, où j'ai écrit « Seigneur, je comprends rien, je connais pas la suite. J'ai pas pris ce texte avec, mais je te fais confiance. » Je savais pas que l'intitulé du témoignage de mon mari serait le mot « confiance ». Mais j'ai écrit « Je te fais confiance, je comprends rien », parce qu'honnêtement, du début à la fin... Pourquoi j'ai pu être guérie? Pourquoi certains pas? C'est des questions éternelles que je ne comprends pas, honnêtement. Mais j'ai dit, OK, je fais confiance.
Pourquoi cet accident est arrivé, hein? C'était, semble-t-il, voilà, dans une petite forêt où votre voiture a dérapé à la place d'atterrir ou d'arriver peut-être dans un endroit calme. Elle s'est encastrée dans un arbre et tout. Donc, il y a toute une série, j'imagine, de pourquoi avec lesquels il faut vraiment se dépatouiller. Ce n'est pas toujours facile, même en tant que croyant, de donner des réponses. Et y a-t-il des réponses à donner à ces pourquoi?
Oui, je pense qu'il ne faut pas chercher à avoir des réponses, c'est ça. Parce que c'est impossible de pouvoir répondre au pourquoi. Et je pense que c'est une erreur de s'achoper là-dessus. Ça nous empêche de vivre.
Donc finalement, vous-même, vous proposez, par rapport à ce questionnement des pourquoi, d'envisager la confiance?
Oui, autant que possible. Après, je ne donne pas des leçons parce que y a des gens qui vivent des épreuves monstrueuses et loin de moi l'idée de venir faire des théories, quoi. Parce que y a des choses terribles. Juste avec mes mots à ce moment-là, j'ai dit, OK, je fais confiance, je le dis, je ne le pense pas. Clairement, j'ai dit, je fais cette démarche. Alors qu'en fait, je l'écris, je le confesse, mais Seigneur, j'y suis pas encore. On verra bien, viens à mon secours. Mais... C'était une déclaration que j'ai voulu faire, que j'ai répétée les jours suivants. Je l'ai redite. Voilà.
Et vous avez eu l'impression que petit à petit, cette confiance est renée en vous?
Oui.
Ou bien c'est quelque chose que vous devez encore aujourd'hui confesser, comme vous le dites, c'est-à-dire, Seigneur, malgré ma situation et peut-être voilà, certaines douleurs que je ressens toujours, je te fais confiance.
Alors, petit à petit, je réalise que c'est quelque chose qu'on devrait tous faire pour tous les jours, en fait, même où il n'y a pas des jours de grandes épreuves, de trucs extraordinaires qui doivent nous tomber dessus, ou des examens, des choses comme ça. On devrait sans arrêt vivre là-dedans, dans une confiance absolue, dans une dépendance en fait. Et une confiance absolue de notre Créateur. Alors oui, je pense que cette expérience m'a appris à le faire pour tous les jours.
Alors Jonathan Deray, finalement dans ce contexte-là, que vous a apporté la personne du Christ à la suite du terrible accident de voiture par lequel votre épouse est passée ?
Bon, je suis chrétien depuis toujours, je dirais. Donc, je connaissais, je lui avais donné ma vie, même jeune sadhuitiste aussi, j'ai fait les démarches, mais quelque chose de plus vrai, pour répondre à la question, quelque chose de réel, alors qu'il l'était déjà, mais là, j'ai pu voir vraiment du concret. Aussi réel que la table que je vois devant maintenant dans le studio. Donc c'est Christ, c'est vrai.
Donc juste pour nous permettre un peu d'appréhender plus finement les choses, finalement vous aviez une sorte de confession, vous avez déjà expérimenté une ou deux choses avec le Christ, mais là, au travers de cette épreuve, sa présence est devenue plus réelle, sa proximité est devenue plus importante.
Alors, sur le moment, je n'arrivais pas à l'expliquer, parce qu'on est dans le jus. Mais si je reprends la corde était bien réelle. Et puis...
Vous le disiez tout à l'heure, vous aviez l'impression parfois que les deux brins, il y a cette corde à trois brins, le troisième étant Dieu. Est-ce que vous avez l'impression parfois que les deux brins, celui de votre épouse et le vôtre, étaient carrément brisés ?
Totalement.
Totalement.
Totalement. Il ne restait qu'un fil. Et puis, libre à moi de le casser ou pas, puis de me détacher encore de ce brin. Mais par contre...
Et c'est une tentation que vous avez vécue parfois en disant « Mais voilà, maintenant, j'en ai ras-le-bol, Dieu, tu ne m'assistes pas dans ma situation difficile. Ah, ouais. Je coupe toute relation avec toi. »
Vous savez, c'est des idées qui passent, puis après, à nous de les saisir ou pas. Et puis, en l'occurrence, j'ai décidé d'éloigner cette idée-là et de me raccrocher à ce seul brin, à ce seul brin-là. Mais je pense aussi à ce moment-là que j'ai reçu un don de foi, comme on appelle. Et puis, pour moi, ça s'est concrétisé par la présence même de Jésus qui m'a dit « Tiens, je te donne un petit bout de moi. Je te donne mon manteau pour que tu puisses supporter cette épreuve. » Et puis, les enfants et moi, on a pu voir des choses incroyables qui se sont passées à ce moment-là. Et puis, il n'y avait pas de doute possible. Jésus était présent. Il m'accompagnait sur le chemin. Voilà.
Et aujourd'hui, au travers de cette épreuve, qui n'est pas encore terminée, vous diriez que votre foi en ressort grandie.
Ah ben ça, de toute manière, oui. Et puis, c'est-à-dire que... Parfois, on ne comprend pas la Bible, elle est trop compliquée, et puis tout d'un coup, elle devient couleur. Enfin, c'est écrit en noir et blanc, et tout d'un coup, on peut y mettre la couleur.
On voit la couleur.
Je prends Romains 4, 18, qui parle d'Abraham. Il a espéré contre toute espérance. C'est des mots c'est des mots incroyables. Il a espéré contre toute espérance. Il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu.
Et il a maintenu le cap. Alors merci beaucoup à Naïda et Jonathan Deray d'être venus ce matin en direct sur Radio Air dans le cadre d'un Air d'Actu. Je rappelle que vous venez de publier Parole d'Homme, un livre de témoignages qui est paru aux éditions Gospel Diffusion à Oran-la-Ville. Merci à Erol pour son aide précieuse à la technique. Excellente suite de journée à chacun et à chacune. Au revoir.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Un Air d'Actu avec Serge Carrel.